Les arènes de l'écologie sur Aligre FM.
Tous les mercredis de 19h à 20h.
Le combat du siècle.
Planète contre humanité.
L'enjeu est énorme, on sait déjà que la planète finira par gagner.
Mais combien de temps tiendra encore l'humanité ?
Eh bien, bonjour à tous, bonsoir plutôt. Donc vous voilà dans les arènes de l'écologie sur Aligre FM, une émission spéciale consacrée encore à l'agriculture et l'écologie. Donc pour une émission sur l'agriculture, écologie et agriculture, vous allez me dire encore, ça fait 5 fois au moins qu'on traite de cette thématique dans les arènes de l'écologie. Manifestement, ça fera l'agriculture sera l'un des grands dossiers de cette première demi-année de l'écologie dans les arènes. Mais c'est pour bien des raisons, notamment qu'il y a une actualité. Vous savez, donc ce feuilleton de la loi Duplomb dont on a parlé à plusieurs reprises va connaître son épilogue lundi prochain dans la commission mixte parlementaire où seront négociés les derniers ajustements. Bon, vu la composition de la commission, on ne s'attend pas à grande amélioration. Mais bon, on en reparlera, on jugera les choses sur pièce le moment venu. Donc c'est aussi pour l'une de ces raisons qu'on a voulu traiter la question des pesticides en agriculture, parce que c'est quand même le grand sujet du moment. Alors on a deux invités super pointus sur le sujet, Claire Bourasso, qu'on va avoir très bientôt en ligne, qui est donc coordinatrice de l'association Phytovictimes, qui nous racontera l'état des lieux. Donc Phytovictimes, elle vous le dira elle-même, c'est l'association qui milite pour la reconnaissance des maladies professionnelles. Donc là, on est avec des gens qui ont été exposés leur pratique professionnelle aux pesticides. Donc je lui laisse le plaisir de présenter le bilan de cette association et du fonds d'aide aux victimes des pesticides. Et puis on a Olivier Mora, donc, qui lui est prospectiviste chercheur à l'INRAE, qui a coordonné, on peut dire, un ouvrage qui pèse son petit poids, qui s'appelle « Vers une agriculture européenne sans pesticides, 3 scénarios à l'horizon 2050 ». Bon, c'est l'une des premières fois, pas tout à fait la première fois, m'a-t-il corrigé tout à l'heure, qu'on ose parler d'une agriculture sans pesticides. Bon, voilà, donc la présentation des invités. Donc on va effectivement parler de cette question-là, parce que c'est quand même un petit peu un tabou. Pour en revenir à notre toit du plomb, ce qu'on nous dit dans cette loi, et du moins les gens qui la défendent, c'est que les pesticides sont absolument indispensables à l'agriculture, sinon on ne peut rien faire, c'est ça ou rien. Leur ancienne, c'est pas d'interdiction sans solution. On va voir que les solutions existent. Mais ce qui serait bien aussi, c'est de regarder les conséquences des pesticides. Parce que c'est franchement pas du tout anodin. Olivier Mora nous développera ça. Mais on va peut-être maintenant en parler directement avec Claire Bourasso, qui est en ligne, si je ne m'abuse.
Oui, bonjour.
Bonjour Claire. Alors, comment allez-vous ?
Ben, je vais bien, vous aussi.
Ouais, on essaye, par cette chaleur, on essaye de survivre, on va dire. Alors Claire, donc votre association a été créée en 2011. Pouvez-vous peut-être nous dire rapidement dans quel cadre, et puis aussi quel est son statut et quelle est sa fonction à cette association, à Phytovictimes ?
Oui, donc effectivement, l'association elle a été créée en 2011 par un petit groupe d'agriculteurs qui étaient concernés par des maladies qui étaient imputées aux pesticides. Et donc à l'époque, il n'existait quasiment aucun tableau de maladies professionnelles. C'était surtout des tableaux en lien avec certaines molécules très précises dans certaines productions, mais il n'existait pas de tableau tout pesticide.
Alors, on parle des tableaux, quand on parle de tableaux dans votre domaine, c'est les tableaux de, comment dire, de reconnaissance.
De maladies professionnelles.
Voilà,
oui,
c'est ça.
Oui, j'ai essayé de... Je vais essayer de ne pas être trop...
Jargonnant.
Oui, exactement. Donc oui, effectivement, c'est des tableaux de maladies professionnelles. Et donc à l'époque, en fait, il n'existait quasiment rien. Et donc quasiment tous les professionnels devaient se battre en justice pour obtenir leurs droits. Donc ça, c'était la situation vraiment à la création de l'association. Et donc en fait, ils ont décidé de créer une structure qui pourrait aider leurs collègues parce qu'eux, ils étaient persuadés qu'ils n'étaient pas les seuls à être malades. Donc c'est pour ça qu'a été créée l'association, et c'est ce qu'on s'attache à faire tous les jours, c'est accompagner les professionnels victimes des pesticides dans leur démarche de reconnaissance en maladie professionnelle. Donc on a une majorité de professionnels du monde agricole, mais on se rend compte que ça touche pas que le monde agricole. Bon, je vais pas trop épiloguer sur ça, parce que c'est pas l'objet de l'émission, mais il y a aussi d'autres professionnels qui peuvent être exposés aux pesticides, et pas que le monde agricole. Donc voilà, et puis entre 2011 et aujourd'hui, il s'est passé pas mal de choses. Il y a eu la création tout d'abord de la maladie de Parkinson en lien avec les pesticides, donc du premier tableau Parkinson pesticide. Donc ça, c'était en 2012.
Donc c'était ensuite, la fin du déni. C'est la première fois où on a reconnu que les pesticides pouvaient rendre malade, quoi. Que la Sécurité sociale, et là, en l'occurrence la MSA, pour ce qui est de l'agriculture, a enfin ouvert les yeux en disant oui, les pesticides peuvent créer des maladies.
Bah, au-delà des organismes de sécu, c'est surtout les pouvoirs publics, puisque un tableau de maladies professionnelles, donc c'est le fruit on se base sur des éléments scientifiques et puis surtout sur aussi un compromis social. Et après, c'est le ministre, et donc là, en l'occurrence, pour les tableaux du régime agricole, c'est le ministre de l'Agriculture qui décide ou pas de signer ce tableau. Donc, ça, c'était la première reconnaissance officielle de l'impact des pesticides sur la santé. Et ce que j'ai pas dit, mais qui est très important, c'est surtout, et on n'aurait rien pu faire sans ça, c'est tout le travail qui a été fait par les scientifiques, qui a abouti aussi à toutes ces reconnaissances. Et donc, voilà, en 2013, c'était la publication donc de l'INSERM qui faisait un état des lieux de la bibliographie internationale sur le lien entre pesticides et santé. Ça a été réactualisé en 2021 et pour nous, c'est vraiment le document
de référence.
Qui fait foi, ouais, de référence.
Mais si on regarde bien, c'est très récent malgré tout. Il y a à peine plus de 10 ans qu'on reconnaît officiellement que les pesticides peuvent créer des maladies mortelles pour l'homme.
Oui. Bah, en fait, c'est vrai qu'au départ, on s'attachait, enfin, c'était plutôt une reconnaissance de l'impact des pesticides sur l'environnement. Dans les années 90-2000, on s'attachait d'abord à ça. Et puis, en fait, bah, malheureusement, c'est qu'on n'a pas forcément trop pu le voir avant parce que ces pathologies-là mettent du temps à se développer. Et donc, bah, c'est arrivé au milieu des années 2000 où là, il y a eu les premiers agriculteurs qui étaient malades. Depuis 10 ans, donc comme je disais, on a Parkinson qui est reconnu, certains cancers, donc les hémopathies malignes depuis 2015, donc c'est myélome, leucémie, lymphoïde chronique et lymphome non hodgkinien, et puis 2021 le cancer de la prostate. Donc ça, c'est les trois grands tableaux et 5 pathologies, il y en a 5 au total, qui sont reconnues en lien avec les phyto.
D'accord, ça veut dire que quand on a cette maladie là et qu'on a été exposé aux phyto, On considère qu'on est malade des pesticides. C'est bien comme ça que ça marche.
Bah, en fait, quand il y a un tableau de maladie professionnelle, il y a ce qu'on appelle la présomption d'imputabilité. Et donc, l'assuré n'a pas à faire la preuve directe de son exposition. C'est déclaratif, mais du coup, c'est lié sur tout ce qu'ils ont pu faire dans leur carrière. Donc oui, c'est une reconnaissance officielle, puisque pour qu'il y ait des tableaux de maladies professionnelles, ça prend du temps. Il y a parfois des années qui s'écoulent entre le travail qui est fait par des commissions et la signature officielle du décret. Donc c'est des reconnaissances officielles quand il y a des tableaux de maladies pro.
Bon, on a connu ça aussi avec l'amiante il y a 30 ans, au moment de l'interdiction, où on s'est aperçu qu'il fallait énormément de temps pour faire admettre ce qui, pour les victimes, peut être considéré comme une évidence, mais pour la société, les pouvoirs publics, il leur faut énormément de temps pour le constater. Donc, ceci étant, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une reconnaissance de la réalité de l'effet sur la santé des pesticides. Et je crois que, rappelez-nous, on a débouché aussi sur la création d'un fonds.
Oui.
Et votre association a été pour beaucoup dans la création de ce fonds par les pouvoirs publics. En 2020, me semble-t-il.
Oui, c'est ça. Donc nous, on y travaillait déjà depuis 2016. Nous, on voulait vraiment un fonds, comme pour les victimes de l'amiante, qui soit financé par les firmes et l'État, qui pour nous étaient et sont les deux principaux responsables de la situation. Et donc, on voulait vraiment un fonds avec réparation intégrale. Ce n'est pas ce qui a été obtenu, puisque la loi a été réécrite et repris à son compte par le gouvernement, mais du coup, le fonds a bien été mis en place par les pouvoirs publics au 1er janvier 2020. Donc, cette date-là est très importante, puisqu'elle c'est une reconnaissance officielle, si on peut dire encore une, mais là, cette fois, c'est voilà, un fonds d'indemnisation des victimes des pesticides, même si en soi, voilà, ce n'est pas vraiment un fonds d'indemnisation, mais ça, c'est des points un peu plus techniques, mais ça n'empêche que c'est la reconnaissance officielle par les pouvoirs publics de l'impact des pesticides sur la santé des professionnels. Et donc ça, c'était le premier point. Et surtout, une des avancées aussi du fonds, c'est la reconnaissance aussi pour les enfants exposés in utero. Ces enfants-là peuvent aussi demander réparation. Donc c'est vraiment une grande avancée. On a regardé pas mal à l'étranger sur ce fonds, sur ce qui s'est fait en France, puisqu'on est quand même vu comme des pionniers sur cette question-là. Et donc du coup, ce fonds interroge, enfin voilà, il y a des au Québec notamment, il commence à y avoir des premières reconnaissances. Ils voudraient aussi qu'il y ait un fonds d'indemnisation, des choses comme ça qui se mettent en place. Mais en France, on est vraiment les premiers à l'avoir fait.
C'est manifestement très bien, donc avec les bémols que vous posiez. Par contre, quand on est simple citoyen et pas forcément agriculteur, on n'a pas vraiment beaucoup d'informations sur ce sujet. Est-ce que c'est parce qu'ils vont publier ils publient leurs résultats au mois d'août ? Est-ce que c'est un hasard, ça, profiter des vacances pour publier ces chiffres qui peuvent faire peur ou pas ?
Ah bah alors ça, c'est pas à moi qu'il faut poser la question. C'est pas moi qui publie le rapport, donc je ne sais pas. Honnêtement, je ne peux pas vous dire si les pouvoirs publics, c'est quelque chose qui est
C'est de la médisance journalistique, on va dire.
Je peux pas répondre, mais en tout cas, bon, c'est vrai qu'après, les chiffres du fonds parlent d'eux-mêmes. Pour l'instant, on n'a pas les chiffres 2024, donc comme vous l'avez dit, ils ne sont pas encore publics. Mais déjà, quand on regarde les chiffres depuis 2020, ils sont éloquents. Il faut savoir qu'avant la création du fonds, on était entre 60 à 80 demandes de maladies pro en lien avec les phytos par an. Ça, c'était la moyenne, 60-80. En 2023, on était à 680 demandes.
D'accord.
Donc, ça a été multiplié par 10 en l'espace de 4 ans, 5 ans. Donc c'est énorme. Moi je me souviens très bien des premiers témoignages des agriculteurs qui disaient bah oui, quand on a créé l'association, on nous disait qu'on était les plus faibles du troupeau, que c'était la faute à pas de chance et que c'était tombé sur nous, mais qu'il n'y avait pas, c'était pas un problème, les phytos, il n'y avait pas de problème avec la santé. On se rend compte qu'aujourd'hui on est à 680 demandes par an pour 2023. Si on cumule toutes les demandes là depuis 2020, on est sur 1700 demandes instruites et 1300 accords. Donc on a 1300 personnes aujourd'hui qui sont officiellement reconnues malades à cause des pesticides.
D'accord.
Ça, c'est que depuis 2020. Donc, voilà,
mais dans les tuyaux, il y a eu déjà d'autres, il y a un an et demi de plus de demandes de dossiers qui ne sont pas comptabilisés dans ce chiffre-là.
Oui.
En 2025, en août 2025, quand ils font le relevé des compteurs, ou du moins quand ils publient les chiffres, on devrait être pas loin des 3000, si je ne m'abuse, si je suis à peu près compté.
Alors, je ne sais pas si on sera à 3000, j'en sais rien, mais en tout cas, on aura largement passé les 2500, ça c'est sûr et certain. Nous, c'est toujours difficile d'avoir les chiffres avant qu'ils soient publiés, donc on peut que imaginer. Après, nous, tout ce qu'on peut dire, c'est un, que nous, à l'association, alors heureusement, on n'a pas tous les dossiers des victimes de pesticides en France, mais ce qu'on peut dire, c'est que nous, on est débordés. On n'arrête pas tous les jours, on a des
alors
nouvelles
c'est,
demandes.
Ces gens qui déposent une demande, ce sont des vieux agriculteurs qui ont été exposés pendant toute leur carrière, ou il y a aussi des jeunes qui, ont été exposés dans un début de carrière?
On est plutôt sur des gens qui ont été exposés toute leur carrière, avec en majorité des gens nés dans les années fin 40, 60, 70. On est vraiment sur cette génération qui est la plus impactée pour l'instant. Après, nous, on va attendre. Enfin, malheureusement, ces maladies mettent du temps à se développer.
Donc, oui, pour l'instant, il y a un effet latence.
Oui, forcément. Donc, c'est difficile de donner des points très précis sur ça. Après, sur la question des pesticides, c'est toujours compliqué parce que il y a des pesticides aussi qui sont considérés comme des perturbateurs endocriniens où c'est pas forcément la dose qui fait le poison, mais c'est surtout le moment d'exposition. Et comme on le voit pour les enfants, par exemple, les enfants, il y a des moments qui sont vraiment très importants dans la construction du fœtus et qui font qu'il peut y avoir des maladies qui se développent ou pas. Donc du coup, on...
Oui, c'est vrai qu'on n'est plus dans un rapport simple de cause à effet, ce qui peut aussi conditionner l'apparition des maladies, c'est le moment où on est contaminé.
Et, ça peut.
Je crois que pour les embryons, il y a 15 jours fatidiques où si on est exposé pendant ces 15 jours-là, on va choper la maladie. Et si on n'est pas exposé pendant ces 15 jours de la grossesse, on a de fortes chances d'y échapper. Donc effectivement, il y a presque un phénomène aléatoire, ce qui complique effectivement l'établissement de la relation de cause à effet. C'est ce qui a alimenté longtemps les polémiques et les controverses sur le sujet. Mais aujourd'hui, si on vous écoute, 2500 dossiers, ça veut dire que c'est vraiment pas tant. C'est genre, je sais pas juger exactement les phénomènes de santé publique, mais ça peut pas être anodin. Donc c'est quelque chose de lourd. Moi, ça me rappelle les chiffres qu'on avait sur les reconnaissances de maladies professionnelles de l'amiante au début de la création du fonds des victimes. Donc, est-ce qu'on peut aller vers un phénomène de masse ou pas?
Ben, ça, c'est l'avenir qui nous dira, mais je pense qu'on peut effectivement s'attendre à ce qu'il y ait de plus en plus de victimes, puisque aussi avec l'évolution des connaissances scientifiques, il y a 25 ans, on ne parlait pas du lien entre Parkinson et les pesticides. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'acté. Donc, on n'est pas à l'abri demain de découvrir de nouvelles pathologies. Comme je disais au tout début de l'émission, il y a aussi d'autres professions qui peuvent être impactées, pas que les agriculteurs. Donc, oui, je pense qu'on va être sur un phénomène de massification. Après, donc, à quelle échéance, comment, je ne sais pas. Après, en tout cas, quand le fonds avait été étudié par les pouvoirs publics, ils avaient, eux, estimé à 10 000 personnes qui pourraient en bénéficier. Donc, pour l'instant, on est loin des 10 000 personnes, hein, on n'en est pas là. Mais du coup, eux, ils avaient estimé à ce chiffre-là. Malheureusement...
La question qui se pose, c'est comment les politiques peuvent... aujourd'hui ignorer qu'il y a 2500 personnes malades des pesticides, c'est quand même énorme. Et deux, combien de dossiers faudra-t-il pour qu'on ose remettre en cause les pesticides à l'Assemblée nationale et qu'on vote pas des lois type de celle dont on parlait tout à l'heure, de la fameuse loi du plomb, la loi qui autorise le dopage en agriculture, quoi. Et c'est vrai que ça posait un vrai problème. Mais là, ce que vous nous dites, 2500 dossiers, c'est énorme. Donc c'est un fait de société qui, étrangement, passe sous les radars.
Mais oui, nous, on est toujours un peu surpris sur ce point-là. Après, bon, c'est aux élus de répondre à ces questions-là.
Hein. C'est à nous, notre rôle de journaliste et d'animateur de radio, de poser la question, quoi.
Mais en fait, on se rend compte que le fonds n'est pas du tout connu. Le fonds n'est pas connu. Il n'y a pas eu, jusqu'à très récemment, de sujets sur des médias qui sont très, très lus, très vus sur le fonds d'indemnisation, sur des sujets de fonds, combien il y a de dossiers, combien il y a de demandes, etc. Il a fallu attendre. Là, vraiment, il y a eu un premier article très important de la France Agricole en septembre 2024 sur le sujet. Donc là, c'était vraiment... spécifique agricole, hein. C'est un lectorat surtout agricole, mais bon, c'est aussi la première cible du fonds. Donc il a fallu attendre quand même un petit peu de temps avant qu'il y ait de la communication. Nous, on le déplore, hein, on considère qu'il n'y a pas du tout assez de communication. On pourrait aussi décider que les pesticides sont un sujet prioritaire et on en fait un sujet prioritaire, c'est-à-dire on fait beaucoup plus de communication auprès du grand, auprès des professionnels concernés, auprès des médecins, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce qu'on voit. On voit quand même une certaine... un certain attentisme de la part des pouvoirs publics sur ce. On a créé un fonds, mais on a l'impression que faut surtout pas trop en parler, quoi.
Eh ben écoutez, dans les arènes de l'écologie, on en parle sur Aligre FM. En tout cas, Claire, on vous remercie. Vous pouvez rester en ligne avec nous puis poser des questions à Olivier Morat pour la suite de l'émission après notre pause musicale incontournable que voici. Merci, à tout de suite.
Merci.
Eh bien, nous voilà de retour dans les arènes de l'écologie sur Aligre FM, 93.1, mais aussi sur Internet, aligrefm.org. C'est assez pratique quand on n'est pas dans la zone de hertzienne, de diffusion hertzienne. Nous voilà avec Olivier Morat. Peut-être que Claire est encore en ligne. Donc, Claire, n'hésitez pas surtout à poser une question à Olivier. J'adore quand les questions entre spécialistes se croisent. C'est toujours très enrichissant. Olivier Morat, comme je le disais, vous êtes ingénieur agronome, c'est ça, pour commencer ?
Exactement.
Voilà. À l'INRAE, depuis longtemps ou...
Depuis une vingtaine d'années même.
Et donc votre spécialité, vous êtes prospectiviste, alors je vais encore avoir beaucoup de mal à prononcer ce mot, Donc un prospectiviste, ça touche à tout et ça essaye de rassembler les informations de tous les autres collègues, tous les autres spécialistes. C'est ça, vous êtes un petit peu un concentrateur d'informations et de recherches.
Alors oui, notre rôle, c'est de mener des réflexions sur le futur, sur ce qui peut advenir. Et pour ça, nous, on n'est pas spécialistes de tous les domaines. Donc on va chercher nos collègues qui sont spécialistes des différents domaines et puis on les fait réfléchir avec nos méthodes pour construire des scénarios, pour réfléchir à ce qui pourrait advenir et à ce à quoi il faut se préparer dès aujourd'hui ou à des chemins qui pourraient nous permettre d'aller vers des avenirs plus souhaitables.
Alors, c'est prospective, ça existe depuis longtemps,
Alors, la prospective est une spécialité française qui existe depuis assez longtemps, depuis, disons, les années 60-70 en France. Et oui, ça s'est créé dans les années 50 aux États-Unis, autour d'études qui étaient plus centrées autour des technologies. Mais en France, ça s'est créé autour d'une vision plus, disons, plus humaniste et plus large, où on essayait de revenir sur le futur qui est déjà écrit, un futur économique, technologique. Et
ça n'a rien à voir avec la science-fiction. C'est,
alors, ça travaille aussi sur les imaginaires du futur, comme la science-fiction, mais ça a des méthodes évidemment différentes.
Alors, la méthode, c'est quoi? C'est la méga grosse synthèse, quoi.
Alors la méthode, c'est de regarder quelles sont les dynamiques en cours, c'est de regarder ce qui s'est passé auparavant sur les 10-20 dernières années, et puis d'extrapoler ces dynamiques, de regarder aussi qu'est-ce qui pourrait advenir comme choses un peu émergentes qui sont dans le présent, qu'on peut repérer et qui pourraient devenir des tendances importantes, et après, à partir de là, de faire des hypothèses à des horizons plus ou moins lointains sur ce qui pourrait advenir et d'essayer de reconstruire des images de ces futurs en prenant en compte toutes leurs dimensions.
Alors, ça a une
dimension systémique.
Systémique. Alors justement, pour revenir à cet ouvrage qui m'a alerté quand j'ai vu annoncer chez Quae, l'édition Quae qui regroupe le CIRAD, IFREMER et l'INRAE, donc grosso modo les grands instituts de recherche du vivant. Ce qui m'a frappé, c'est qu'effectivement, pour une première fois, alors bon, je ne suis pas aussi informé que vous, pour moi je l'avais vécu comme une première fois, on osait remettre en cause, on osait parler d'agriculture sans pesticides. J'avais l'impression que jusqu'à maintenant c'était un tabou, quoi.
Alors le travail, il s'insère dans une réflexion qui part au niveau de la recherche, des limites, de travaux de recherche qui étaient faits sur la protection intégrée des cultures, qui cherchaient en fait à réduire l'usage des pesticides dans les systèmes agricoles et qui n'avaient pas finalement les effets escomptés en termes de réduction. Et donc il y a eu une réflexion, disons, à la fin des années 2010, sur est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir dans la recherche sur comment on pourrait construire des systèmes agricoles sans pesticides chimiques. Et là, il y a un programme de recherche très large qui s'appelle le programme prioritaire de recherche cultivée et protégée autrement, qui a été mis en place en 2019 pour réfléchir sur de nouvelles pratiques et sur comment la recherche pourrait produire des connaissances pour mettre en œuvre des nouvelles pratiques d'agriculture sans pesticides chimiques. Et il y a une dizaine de projets qui ont été financés dans ce cadre-là, sur des sujets assez divers, les communautés microbiennes, la diversification des cultures, les semences, la surveillance des bioagresseurs. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a mené notre travail de prospective.
D'accord. Alors 2019, pour la recherche, c'est très jeune, quoi. C'est pour ça aussi que peut-être que les sujets n'émergent pas tant que ça. Est-ce que nos députés sont au courant de vos travaux ?
Alors les travaux, ils ont été présentés en 2023, donc maintenant ça fait 2 ans, donc c'est pour ça que le livre sort maintenant. Bon, ils ont reçu un accueil assez important quand ils ont été publiés. C'était avant la crise agricole. Là-dessus, il y a eu la crise agricole et donc il y a eu un reflux sur les sujets environnementaux, de réduction des pesticides. Enfin, il y a eu toute cette tension avec la crise agricole et la crise du métier finalement d'agriculteur. Et donc du coup aujourd'hui c'est quand même plus compliqué de poser ces débats. Il y a une transformation du débat public aussi sur ces sujets.
Alors peut-être il y a transformation, mais là il y a justement, on parlait tout à l'heure de la France agricole qui a fait paraître ce dossier sur le fonds d'indemnisation, mais aujourd'hui il a fait paraître aussi un dossier plutôt intéressant sur les agriculteurs hostiles à la loi Duplomb. Donc effectivement, nous avons fait une présentation des actions de la Confédération paysanne qu'on avait reçue il y a quelques mois. C'est loin d'être anodin. Et ils vont organiser différentes actions, dont notamment un déjeuner, je crois, sur le parvis du Sénat, dont je ne sais pas si c'est au Jardin du Luxembourg ou autre, pour effectivement alerter les gens. Et ils ont fait aussi paraître, donc c'est la Confédération, semble-t-il, qui avait fait faire un sondage, et il y a quand même 96% des agriculteurs qui considèrent que les néonicotinoïdes, ce n'est pas pour eux une priorité. Donc quand on parle de loi pour les agriculteurs, on a quand même un peu l'impression qu'on tord le bras à la profession agricole et qu'il y a une forme de prise d'otage et que les positions défendues, au moins pour certains des articles, il y a certains articles qui sont peut-être importants ou intéressants pour tout le monde, donc on est très loin de l'intérêt général. Donc, et par contre, l'intérêt général, vous allez peut-être pouvoir nous en parler. Justement, vous me disiez tout à l'heure qu'il y avait eu aussi hier, je crois, Spritz, publication d'une étude européenne sur les effets des pesticides dans plein d'autres domaines que la santé humaine.
Alors, cette conférence Sprint, c'est un projet européen qui s'est...
Naturellement, il fallait que je me mélange les syllabes.
Qui étudie l'impact des pesticides sur la santé et l'environnement, dont les résultats viennent d'être publiés, présentés aujourd'hui. Malheureusement, je n'ai pas pu suivre toutes les conférences, mais il y avait l'air d'y avoir des résultats assez intéressants. Il s'est intéressé aux effets cocktail, en fait, des pesticides sur l'environnement et la santé. Et... il soulignait des éléments émergents pour faire évoluer finalement les réglementations et les régulations des pesticides, et notamment des éléments qui étaient peu régulés jusque-là, qui étaient notamment liés à la présence de pesticides dans les poussières qui sont jusque-là pas mesurés et qui pourraient être un élément à prendre en compte dans les futures régulations. Mais je ne suis vraiment pas spécialiste question.
L'information, c'est qu'il y a au niveau européen, parce que c'était une conférence européenne, si j'ai bien compris, qu'au niveau européen, ça commence à réfléchir, que les Français ne sont pas isolés sur cette réflexion et que cette espèce de parano en disant on surréglemente en France, les autres s'en fichent et nous on fait du zèle, c'est pas vrai quoi.
Alors là, ce que je vous disais, c'est du point de vue de la recherche. Donc il y a un travail, il y a énormément de communautés de recherche dans le domaine de la santé, de l'écotoxicologie, qui depuis des années, en fait, regardent quels sont les impacts des pesticides sur les organismes vivants et sur les milieux. En général, et ça, c'est vraiment une recherche qui est très ancrée, hein, qui est vraiment... peut-être le point de vue de recherche depuis lequel je vous parle, c'est plutôt les recherches en agriculture et comment finalement dans la conception des systèmes agricoles on peut imaginer aujourd'hui se passer de pesticides chimiques.
D'accord. Donc c'est pas une lubie de l'INRAE que de se lancer sur un sujet comme ça. Vous êtes vraiment dans le move, comme on pourrait dire.
Oui, on peut même ajouter le fait qu'il y a une alliance européenne qui vise à sortir des pesticides chimiques du point de vue de la recherche et à construire des innovations pour sortir des pesticides chimiques qui s'est mis en place au niveau européen, qui regroupe plus d'une vingtaine d'institutions aujourd'hui et qui
D'accord.
a été
portée. Bon, bah alors on va revenir justement sur le sujet. Donc vous avez essayé de voir les possibilités de se passer de la chimie en agriculture. Comment on ferait ?
Alors,
Aligre FM 93.1.
Comment faire ? D'abord, il faut peut-être revenir à pourquoi on les utilise.
Ouais.
Parce qu'en fait, on comprend beaucoup de choses quand on comprend ce que sont les pesticides chimiques dans les systèmes agricoles. Alors, ces pesticides chimiques, il faut les voir comme la clé de voûte des systèmes agricoles qui ont été construits depuis la modernisation.
C'est-à-dire depuis les années 50.
Depuis les années 50. C'est eux qui permettent d'avoir des rendements stables, c'est eux qui permettent de maintenir une qualité des produits. c'est grâce à eux qu'on a pu augmenter la fertilisation chimique, avoir une sélection variétale de semences vers des variétés à fort potentiel de rendement, mais qui sont dépendantes de conditions vraiment à l'optimum. C'est grâce à eux qu'on a pu raccourcir les rotations, c'est-à-dire avoir quasiment des systèmes qui sont parfois en monoculture. Donc on a des systèmes...
Alors quand on dit raccourcir les rotations, c'est une succession de cultures sur plusieurs années. C'est un calendrier pluriannuel.
Exactement, voilà, c'est ça.
C'est pas un manège.
Voilà, c'est une rotation des cultures.
Trois cultures dans l'année.
Voilà. C'est-à-dire que quand on replante la même culture sur la même parcelle, en fait, on accroît la
risque.
Pression des bioagresseurs. Alors, les bioagresseurs, il faut aussi avoir en tête qu'ils sont extrêmement divers. Il y a ce qu'on appelle les mauvaises herbes, les adventices, il y a les insectes ravageurs, il y a les agents pathogènes qui provoquent des maladies sur les plantes.
Champignons.
Voilà. Et donc, c'est vraiment on utilise le terme bioagresseur, mais c'est vraiment des entités très différentes. Et puis, ces pesticides, ils ont permis une simplification des paysages, c'est-à-dire on a des parcelles très grandes où on arrive à maintenir les cultures grâce aux pesticides.
Parce que, par définition, un grand champ de blé, c'est pas naturel, quoi, dans milieu, y compris dans les steppes du croissant fertile, il y a 12 000 ans, on n'avait pas forcément des mosaïques. Dans des champs aussi grands, on devait avoir des mosaïques de formations végétales diverses. Et alors justement, est-ce que c'est pas là, l'agriculture, est-ce qu'on a des bioagresseurs aussi puissants dans la nature non transformée par l'homme?
Alors c'est un des enjeux, on a créé cette espèce de parapluie chimique sur les cultures avec ces pesticides de synthèse. Et en fait, le fait d'utiliser de manière récurrente ces pesticides de synthèse, ça a provoqué l'apparition de résistance parmi les bioagresseurs. Alors, d'insectes résistants aux insecticides, de plantes résistantes aux herbicides. Et donc une espèce de course à l'armement où on utilise des quantités plus grandes de pesticides chimiques pour avoir le même effet. Et on sait que finalement, ces molécules de synthèse qui sont utilisées pour contrôler les bioagresseurs, elles vont avoir un effet qui sera de plus en plus faible à l'avenir. Et donc il y a un problème aussi, une impasse socio-technique quelque part. C'est pas une impasse maintenant, mais disons à long terme de ces systèmes, si on n'arrive pas à résoudre ces questions.
Grosso modo, ce que vous dites, c'est que l'agriculture chimique, elle est condamnée à terme. À quelle échéance? C'est quoi? Dans 100 ans?
En fait, tout ça va dépendre des mutations propres aux insectes ou propres aux plantes face et à la pression qui est exercée par les pesticides sur les champs, les pesticides qui sont épandus.
Donc, grosso modo,
c'est un mécanisme évolutif. L'horizon, on ne le connaît pas tellement, en fait. C'est des phénomènes qu'on observe aujourd'hui. Mais on sait en fait que les résistances dans le temps vont augmenter et que dans le même temps, on ne va pas produire de nouvelles molécules sur le marché parce qu'il faut 10-15 ans pour produire des nouvelles molécules. Et aujourd'hui, recherche sur ces nouvelles molécules est
quasiment
à l'arrêt.
Ce que vous nous dites, c'est que les phénomènes de résistance aux produits chimiques vont plus vite que la recherche en chimie, ou du moins que leur commercialisation, ou que quelque part... l'agriculture chimique risque de pas gagner la course qu'elle a elle-même lancée. Pour en venir aux résistances, il y a l'INRAE qui avait publié ou communiqué un atlas des résistances aux adventices récemment. Et il n'y a plus un seul département en France où il n'y a pas une espèce d'adventice qu'on va considérer comme nuisible absente. Donc dans tous les départements, il y a au moins une espèce, que ce soit le régras, que ce soit le gaillet, que ce soit d'autres, je n'ai plus tout en tête, mais effectivement, où on atteint 5% de perte de rendement. C'est le niveau de nuisibilité qu'avaient retenu vos collègues.
D'accord, je ne connais pas cette étude, mais effectivement, il y a de plus en plus d'études qui se multiplient et qui montrent ces effets. Oui.
Donc effectivement, aujourd'hui, et ça c'est pas la... Quand on parle aujourd'hui de produits qui sont plus adaptés, c'est pas forcément parce que les écolos, les méchants écolos ont interdit les produits, c'est qu'il y a des produits qui sont plus efficients.
Alors c'est en partie le problème. Après, il y a aussi des produits qui vont être de moins en moins efficients, mais qui continuent à avoir un impact très négatif. Alors, on l'a vu, la personne précédente a bien décrit les effets sur la santé humaine. Claire a bien décrit les effets sur la santé humaine. Mais c'est également des effets très importants sur tous les compartiments de l'environnement, donc l'eau, le sol, l'air, et également sur la biodiversité, où là, on a des chutes de biodiversité, notamment sur les insectes, qui sont très préoccupantes. Donc, par exemple, des chutes de 90% de la biomasse, donc c'est le volume total d'insectes en 20 ans en Allemagne, mesuré sur les champs cultivés. On a aussi des impacts sur les chaînes trophiques, donc par exemple les oiseaux qui vont consommer pour partie à certaines périodes de leur développement des insectes. On a moins 57% en 40 ans des populations d'oiseaux en France. Donc,
et ça, grosso modo, c'est un signe, c'est un symptôme du détraquage de la machine biologique globale, donc de la biodiversité. Mais c'est un fonctionnement, donc c'est faut pas voir ça comme une collection d'espèces. C'est une grande horloge. Et quand on parle de raréfaction des populations, ça veut dire qu'il y a eu des agents qui ont enrayé la machine, quoi, biologique, quoi. C'est ça que ça veut dire.
Oui, et puis ça a des impacts aussi sur l'agriculture, c'est-à-dire tous les services, ce qu'on appelle les services écosystémiques qui sont liés à l'agriculture, par exemple les services de pollinisation, ou ce qu'on appelle les services de régulation des bioagresseurs, par exemple les services de l'écosystème qui permettent d'avoir des prédateurs, des ravageurs des cultures dans les haies, en bord de parcelles, tout ça aussi se réduit, et ça aura un impact moyen et à long terme, mais ça a déjà un impact sur l'agriculture, même si c'est difficile à quantifier.
Oui, donc c'est pas un débat comme souvent on l'a caricaturé entre la production agricole et puis les conservateurs de la nature, le côté un peu zoo ou plaisir de la nature. C'est vraiment, grosso modo, la chimie est en train de casser le fonctionnement biologique, y compris de leur production. C'est là où ça devient inquiétant. Effectivement, on parle que les rendements de blé stagnent depuis une bonne quinzaine d'années, au moins.
C'est pour ça qu'en fait l'idée de ce travail, c'est de dire on fait un changement de paradigme, mais au lieu de se dire qu'on va réduire les usages des pesticides, ce qui a un effet ce qui est en place dans les politiques publiques, en particulier les politiques publiques qui concernent l'eau, essaient de réduire les pesticides sur les zones de captage, par exemple, c'est bien connu depuis de nombreuses années, c'est des politiques à la fois nationales et européennes. Et qui ont des effets limités. Et l'idée, c'est de faire un changement de paradigme et de réfléchir sur des systèmes sans pesticides chimiques, et donc des systèmes qui permettent de se passer des pesticides chimiques et à long terme, à large échelle, à l'échelle de l'Union européenne.
Et alors, j'en reviens à ma question, comment vous allez faire ? Si vous n'avez plus de poudre à pulvériser, à l'apparition du moucheron machin, on va lancer les tracteurs et le pulver. Comment on fait pour si on n'a pas de produits chimiques ?
Alors, je vais répondre en deux grands blocs. Le premier, c'est de dire, si on veut faire une stratégie de protection des cultures sans pesticides chimiques, il faut avoir quelques principes en tête, qui est que, quand on regarde les leviers qu'on a pour agir sur ce qu'on appelle les bioagresseurs, on a donc les pesticides chimiques via la lutte chimique, on a le biocontrôle, on a ce qu'on appelle la lutte physique, bon, par exemple c'est le labour pour se débarrasser des adventices, on a tout ce qui est succession des cultures dans le temps, on a l'organisation spatiale des cultures, par exemple le fait d'associer des cultures au sein des parcelles, on a également des outils pour travailler à l'échelle des paysages, modifier les paysages, on peut faire aussi de la sélection végétale adaptée. Et quand on enlève une molécule chimique, en fait, et c'est tout le débat sur la substitution actuellement, on se dit on va en mettre en place un levier qui s'appuie sur une régulation biologique, quelle qu'elle soit, parmi celles dont je viens de parler, pour se substituer. Et en fait, on se rend compte que ce n'est pas possible, parce qu'en fait, au fond, il n'y a rien qui est aussi efficace qu'une molécule chimique. C'est justement le problème de ces molécules chimiques, elles ont un spectre d'action trop vaste. Et Donc elle tue trop d'entités vivantes.
Parce qu'elle ne tue pas que le méchant puceron, elle va tuer le pollinisateur en même temps.
Voilà, le problème c'est que ça impacte énormément d'autres insectes ou d'autres plantes qui sont présentes dans l'écosystème ou d'autres micro-organismes. Et donc l'idée c'est de dire il faut reconcevoir le système de culture, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'éléments dont je viens de parler. La rotation, elle fait partie de la façon de concevoir le système de culture. Ce qu'on met dans la parcelle et la manière dont on conduit la culture dans la parcelle, ça fait partie du système de culture. Donc il faut reconcevoir ce système de culture en valorisant les régulations biologiques à l'échelle du sol et du paysage dans le système de culture. Et là, on peut s'inspirer des principes de l'agroécologie. Donc on en a certains qu'on connaît bien du côté de l'agriculture biologique, quand même, qui déjà met en place certains éléments. Et puis accroître la diversification des cultures. Et pour faire ça, ça veut dire aussi qu'on n'a pas d'outils pour lutter contre, ou on a moins d'outils pour lutter contre le bioagresseur quand il attaque la plante au champ, donc quand il est en train de produire des dégâts au champ. Et donc ça veut dire qu'on peut plus rester dans ce qu'on appelle une stratégie de lutte ou de contrôle du bioagresseur quand il se manifeste, mais il faut être dans des actions préventives.
D'anticipation, quoi.
Voilà, d'anticipation, et c'est ce qu'on appelle une stratégie de prophylaxie. Donc il faut surveiller le cycle de vie du bioagresseur, par exemple un insecte au stade larvaire ou quand il pond, où c'est qu'il pond, et essayer d'agir sur ces stades-là.
Alors quand vous parliez de agir sur les ravageurs par les paysages, alors qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors ça veut dire renforcer les habitats, par exemple, pour les prédateurs des ravageurs des cultures. Alors on sait il faut qu'ils aient un habitat un peu permanent. Et donc les haies, les bosquets à proximité des cultures, là, ils vont pouvoir se développer pleinement.
Donc grosso modo, ce que vous dites, c'est qu'il faut aussi peut-être arrêter de faire ces immenses champs à perte de vue, mais aussi réintroduire des zones de plus naturelles où les prédateurs des ravageurs, donc les auxiliaires de culture, comme on dit quand on est dans le métier, puissent se développer et vivre pour aller chasser les pucerons et autres méchants ravageurs.
Voilà, oui, ce qu'on connaît bien, c'est l'usage des coccinelles pour s'attaquer aux pucerons.
Mais il y en a beaucoup d'autres.
Hein. Oui, mais il y en a beaucoup d'autres.
Alors souvent, on voit ça dans les serres, etc., dans le maraîchage, dans des petites unités. Mais est-ce qu'on peut transposer ça aux grandes cultures industrielles, ce qu'on appelle industrielles, le blé, orge, colza, betterave à sucre, qui sont un peu les piliers de notre agriculture industrielle, quoi.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra pas rester avec les systèmes tels qu'ils sont aujourd'hui. Par exemple, peut-être le système intensif betterave qui ressemble beaucoup à un système de monoculture. Et il faudra diversifier. Donc, une des clés du raisonnement, aussi dans le fait d'agir sur les paysages, c'est diversifier les cultures dans le temps et dans l'espace. Et dans l'espace, ça veut dire aussi travailler sur des mosaïques de cultures pour freiner le développement d'un bioagresseur, que ce soit une maladie, un insecte ravageur.
Est-ce que ça veut dire que les agriculteurs devront se concerter pour... parce qu'aujourd'hui, chacun fait ce qu'il veut dans sa parcelle. Certes, il a des parcellaires qui sont déjà plus ou moins éclatés, mais bon, ça... pourrait rentrer dans les structures agricoles, ça serait un autre sujet. Mais est-ce qu'il va falloir qu'ils se réunissent autour d'une table pour co-construire ces nouveaux paysages agricoles ?
Oui, c'est un des éléments parmi les trois stratégies qu'on a identifiées pour lutter ou pour mettre en place une protection des cultures sans pesticides chimiques. Il y en a une qui est basée sur les paysages. Et un enjeu là, c'est de diversifier les cultures à l'échelle de la parcelle et à l'échelle du paysage, mais aussi de complexifier les paysages, c'est-à-dire qu'il y ait plus d'infrastructures écologiques, donc ce dont on a parlé tout à l'heure, ça peut être des pandanes herbées, des bosquets. Et là, ça veut dire d'avoir une réflexion, donc c'est vraiment une réflexion prospective, hein, de long terme, sur comment on pourrait aménager le paysage pour réduire la pression des bioagresseurs. Et donc là, avec tous les acteurs, peut-être pas seulement les agriculteurs qui sont sur l'espace, mais aussi les communautés de communes, les propriétaires de forêts, essayer de mettre en place des aménagements à large échelle pour réduire cette pression des bioagresseurs. Et ça passe par le fait d'avoir au minimum 20% d'habitats semi-naturels au sein de ces espaces.
D'accord. Alors, donc, pour nos auditeurs, quand on parle de paysage, ce n'est pas le paysage vu, c'est le paysage fonctionnel. Donc l'INRA reprend la définition des paysages un peu des biogéographes, qui était ma discipline initiale. Effectivement, on regarde ces écosystèmes. Donc un paysage, c'est un grand écosystème au final. Et puis surtout, il faudrait bien comprendre que les paysages actuels ne sont pas issus de la nature, ou comment dire, ne sont pas tombés du ciel. C'est quelque chose qui a été co-construit par l'homme, un peu à son avantage et à son intérêt. Depuis, souvent on parle du remembrement, mais bon, ça remonte bien avant, ça remonte à plusieurs millénaires, mais bon, ça on en reparlera à un autre moment. Donc effectivement, l'homme peut co-construire des paysages.
De la même manière qu'on a simplifié finalement à travers la modernisation, on peut travailler aujourd'hui à recomplexifier ce paysage parce qu'il y a une nécessité de le faire pour lutter contre les bioagresseurs et pour trouver des moyens. En fait, l'idée générale, c'est de renforcer la diversité biologique à l'intérieur du paysage pour qu'au fond, toutes les niches écologiques soient occupées et pour qu'il ne puisse pas y avoir un insecte ravageur qui se développe sur de grandes étendues parce que finalement, il ne rencontre aucune concurrence.
D'accord. Donc effectivement, alors il y a d'autres voies par le paysage.
Alors il y a deux autres voies. Donc la première, c'est l'immunité de la plante. C'est l'idée de travailler sur tous les mécanismes de défense de la plante quand elle interagit avec les bioagresseurs. Donc pour se défendre, par exemple, il y a des mécanismes qui permettent de réduire ou à la plante de continuer à avoir une feuille active alors qu'une partie a été attaquée par un insecte ravageur, ou alors de se défendre d'une maladie fongique. Et donc, pour ça, il y a des solutions de biocontrôle par des stimulateurs de défense des plantes. Donc, c'est un ensemble de mécanismes moléculaires qui sont aussi parfois liés aux relations que les plantes arrivent à tisser avec les communautés microbiennes des sols, qui leur donnent des éléments moléculaires pour agir contre ou résister aux bioagresseurs. Ou alors il y a des mécanismes de flash d'UV qui sont au stade expérimental. Donc il y a une voie qui est vraiment centrée sur la plante, et là l'idée de l'immunité, c'est de considérer la plante non pas comme le support du grain, mais comme une plante vivante qui a une immunité propre et qu'il faut renforcer et travailler à renforcer. Et l'autre voie, c'est une voie qu'on a appelée holobionte, alors que c'est un gros mot, holobionte. Pour faire simple, on est tous des holobiontes.
J'ai dit qu'il fallait...
Bien sûr.
Qu'il y avait quelques mots à s'approprier pour pouvoir parler de l'avenir de l'agriculture, dont holobionte.
Et donc c'est un mot très intéressant en termes de biologie évolutive.
Ce que ça veut dire, holobionte. C'est récent, ça. C'est même pas une dizaine d'années, le mot.
Alors, c'est un peu plus ancien, mais disons que c'est plus établi depuis une dizaine d'années. Mais ça date des travaux de Margulis, qui était une biologiste des micro-organismes, qui avait travaillé beaucoup sur la symbiose. Et donc, un holobionte, c'est le lien entre une entité vivante qui est constituée par un organisme supérieur, donc ça peut être une plante ou nous, et les cortèges microbiens, donc l'ensemble des communautés microbiennes qui sont attachées à la vie de cette entité. Et donc, pour une plante, c'est l'ensemble des cortèges microbiens qui sont liés, par exemple, au tissu racinaire, notamment les mycorhizes, ça peut être. Mais c'est aussi les micro-organismes qui sont endophytes, donc qui sont à l'intérieur de la plante, ou alors c'est les tissus, c'est les communautés microbiennes qui sont à la surface de la plante. Et pour l'humain, ce qui est très important, c'est qu'on en a à la surface de la peau, des micro-organismes, mais on en a aussi à l'intérieur.
2 à 3 kilos de bactéries, je crois.
Voilà, dans notre
le microbiote.
Estomac, c'est le microbiote.
Donc quelque part, c'est un peu l'équivalent du microbiote pour les plantes, quoi.
Voilà, c'est la même idée, à part que là, c'est un système complètement ouvert, puisque c'est la relation de la plante avec ses communautés microbiennes extérieures qui sont principalement dans le sol, enfin celles qu'on connaît le mieux.
Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on va envoyer vos collègues du ferment du futur, par exemple, qui sont sur le plateau de Saclay, vont cultiver des bactéries pour qu'on puisse aller en répandre
Alors, il y a plusieurs voies sur la manière dont on pourrait... Aujourd'hui, on est au stade dont on pourrait agir à partir de ces micro-organismes. Mais aujourd'hui, on est au stade d'essayer de produire des connaissances fondamentales en regardant quelles fonctions accomplissent une communauté microbienne du sol et comment telle plante, du blé ou du soja, tisse des relations fortes avec les micro-organismes du sol qui permettent de renforcer sa santé, de renforcer sa capacité de réaction face à des perturbations. Alors les perturbations, ça peut être des perturbations biotiques liées à des bioagresseurs ou des perturbations abiotiques liées à des stress hydriques, etc. Et donc on sait par exemple que les plantes qui ont tissé ce genre de relations à l'intérieur du sol vont pouvoir aller chercher des micronutriments à l'intérieur du sol beaucoup plus loin et de l'eau beaucoup plus loin que les plantes conventionnelles.
Alors pour l'agriculteur, ça va se concrétiser comment ?
Alors là, pour le moment, c'est vraiment des travaux qui sont menés par deux ou trois projets qui sont propres au PEPR cultiver et protéger autrement. L'idée, ça serait de travailler. Si on arrivait à produire ces connaissances sur les fonctions...
Il ne va pas pouvoir y aller avec sa charrue ou son pulvée.
Alors, l'idée, c'est de dire on va travailler sur le choix des cultures. Le choix des cultures va orienter la composition microbienne du sol, d'un côté. On va travailler sur les pratiques culturales, notamment apporter des effluents d'élevage, des engrais organiques qui vont permettre de modifier la composition microbienne du sol. Et puis, on peut aussi travailler sur de l'inoculation ponctuelle, s'il y a ce qu'on appelle des dysbioses, c'est-à-dire des pathogènes qui sont présents dans le sol et contre lesquels on veut lutter. Et puis, le dernier point, qui est fondamental, c'est de travailler sur de la sélection végétale qui permette de renforcer ces liens avec les micro-organismes.
Donc, grosso modo, l'agriculteur, va falloir qu'il agisse beaucoup plus en amont que plus qu'il soit dans le curatif, quoi. C'est un peu le principe essentiel. Donc, effectivement, agriculteur va devenir un métier de savant.
Alors, il faut évidemment qu'il y ait des outils techniques qui permettent d'accompagner cette transformation, c'est-à-dire des outils qui permettent de mesurer l'état à la parcelle des communautés microbiennes présentes et de savoir les effets des différentes pratiques et de les mesurer au cours du temps. Donc, ça demande des outils qui n'existent pas aujourd'hui et c'est pour ça que c'est de la
prospective. D'accord, vous reviendrez, Olivier, parce qu'on est pris par le temps, comme d'habitude. Donc, la semaine prochaine, on aura une émission sur le 50e anniversaire de la CUF, Cité Unifrance, sur la coopération décentralisée des pouvoirs locaux. Et puis, donc, il me reste aujourd'hui à remercier René Clancy, Armand Gury pour leur très aimable réalisation et surtout le coup de main qu'ils nous ont donné pour pouvoir assurer cette émission dans les bonnes conditions. Et tout simplement à la semaine prochaine. Et puis donc on passera à la coopération décentralisée la semaine prochaine. Et bonne semaine écologique à tous. À bientôt. Now the man we won't fight corruption, but don't chop with corruption. He come drink with corruption, he come make friend with corruption. Corruption become him daddy, from corruption he close like take money. Corruption make him somebody, as in no nobody. So the man start to fight corruption, forget he chop with corruption, forget he drink with corruption, forget he make friend with corruption. Corruption start to fight him, they say corruption they fight back. Say he enemies they attack, for him friends they backtrack. But you can't fight corruption when you don't chop with corruption, when you don't drink with corruption, when you don't make friends with corruption. As corruption know your secret, you no go ever know peace. As corruption know your secret, it go hard make you succeed. It go hard make you succeed.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.